midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. J'ai reçu ce matin le rêveur mathématicien. Bonjour Anouar Ben Malek.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, poète, journaliste, docteur en mathématiques et membre fondateur du comité algérien contre la torture. Ça commence à dater maintenant, c'était octobre 88. Hein.
Oui, mais ce qui a motivé l'existence du comité algérien contre la torture est toujours d'actualité, malheureusement.
Oui, et vous étiez l'un des éditeurs hein, du cahier noir d'octobre qui recueillait les témoignages à l'époque de ceux qui avaient été victimes de la torture.
Et je dirais qu'il reste encore d'actualité, puisque aucun de ceux qui ont perpétué les crimes que le cahier noir recense n'ont été punis. La culture de l'impunité est une constante en Algérie.
Même si aujourd'hui les prisons n'ont jamais été aussi pleines.
Ouais. Ça c'est terrible de constater que le nouveau gouvernement est toujours plus répressif que le précédent. Et en Algérie, avoir une situation de ce genre où le nombre de prisonniers politiques est aussi important, sans que cela ne gêne à aucun moment le pouvoir, est quelque chose de profondément indécent et profondément inquiétant pour l'avenir.
Mais cette situation-là qu'on vit actuellement, on ne l'avait jamais vue avant ?
À ce niveau-là, non. Parce que auparavant, il y avait bien de la répression contre des opposants politiques, mais cela restait limité. Tandis que là, ça peut toucher n'importe qui. Par exemple, vous prenez un médecin, une femme, condamnée à 2 ans de prison ferme. Pourquoi ? Parce qu'elle a émis des opinions sur Facebook. Émettre des opinions, actuellement, est souvent considéré comme alors des très grandes accusations. Porter atteinte à l'unité de la nation, à la sûreté de l'Algérie, etc. Ce sont des accusations tellement énormes que, d'une part, on a envie de rire, mais en même temps, on est effrayé par cette cette justice qui est aussi aux ordres. Qu'un procureur puisse, par exemple, réclamer des peines de prison ferme contre, par exemple, un dirigeant d'un parti politique parce que celui-ci a émis une opinion tout à fait naturelle de la part d'un opposant. C'est s'opposer à la politique du pouvoir en place, c'est dire que ce qu'il fait n'est pas bon, etc. etc.
Et vous pensez à qui, là ?
C'est le président du MDS, je crois, d'un parti de gauche, Rras, si je ne me trompe pas. Donc, quand on en arrive à ce point de répression, on se dit alors... Donc les seuls à avoir au fond échappé, c'est les terroristes, les vrais. Ceux qui ont bénéficié des lois d'amnistie, etc. Ceux-là qui ont commis des crimes de sang sont libres, tandis que le citoyen ordinaire dont le souci est d'améliorer la gestion de l'Algérie, en émettant des opinions fortes, eh bien se retrouve en prison, traité comme un vulgaire criminel, mis en prison en sachant ce que sont les prisons algériennes, avec le risque de maladie, etc., etc. C'est quand même c'est triste quand on considère que les gens avaient tellement d'espoir pour l'indépendance de l'Algérie que actuellement l'Algérie est en train de se transformer en un vulgaire pays autoritaire avec un pouvoir qui ne respecte absolument pas son peuple, qui se fiche pas mal d'ailleurs des résultats des élections. Un président qui obtient aussi peu de voix, un parlement qui est aussi peu légitime et qui fait comme si de rien n'était. On va avoir des élections municipales qui, quel que soit le degré de participation du peuple, se considérera comme des maires tout à fait légitimes. Ça, c'est quand même un grand, grand échec de l'Algérie en général et de cette nouvelle Algérie comme la lame de pouvoir.
Bon, on peut passer une heure à parler d'Algérie, mais je vous ai invité ce matin. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a mon ami Adil Farkan, tous les soirs, qui justement refait l'actu, donc dans les informés sur Beurre FM. Et moi, je pourrais parler une heure d'Algérie avec vous, mais si je vous ai invité ce matin, c'est pour parler de votre nouveau livre. Ça s'appelle L'amour au temps des scélérats, aux éditions Emmanuel Collard. Donc là aussi, il y a une histoire, hein, grande éditrice, c'est l'histoire d'une rencontre. Qui vous l'a présenté, Emmanuel Collard ?
C'est un peu le hasard, et c'est aussi un grand ami. donc écrivain.
Hubert Haddad.
Hubert Haddad, donc, ouais. Qui m'a dit, mais pourquoi ne t'adresserais-tu pas à Emmanuel Colas, qui est une éditrice qui a beaucoup de courage, qui s'occupe de ses auteurs, mais de vraiment de manière extrêmement efficace. Et donc je me suis dit pourquoi pas.
Et qui est historienne quand même de l'Antiquité.
Oui, donc je ne le savais pas.
Ce qui peut avoir un rapport avec votre livre.
Oui, je ne le savais pas, mais ça tombe très bien parce qu'elle m'a dit aussi que l'un des intérêts qu'elle a trouvé dans le livre, c'était aussi cette... aspect de Mésopotamie.
Cette table mésopotamienne qu'un de vos héros cherche.
Oui, exactement. Voilà.
Vous jouez avec l'histoire. Hein.
Oui.
Vous jouez avec l'histoire, alors ça prend des millénaires. On est sur un millénaire et demi, on va dire, à peu près. Vous le situez sur combien de temps, vous ?
Un peu plus, peut-être, parce qu'il y a les Sumériens, et puis il y a une époque assez improbable, celle où... le personnage principal, Tammuz, dont on ne sait pas s'il est exactement le diable ou pas, enfin bref.
Tammuz qui erre dans les temps.
Exactement, voilà. Hein. Et donc il reprend ce thème cher aux religions monothéistes, le personnage d'Abraham.
Oui. Alors dans votre livre, c'est le cheikh Abraham.
Abraham. Parce que dans la Bible, Abraham s'appelle d'abord Abraham. Et ensuite... il prend le nom d'Abraham à la suite de quand il a son premier enfant. Donc moi j'ai toujours été étonné de la place très particulière d'Abraham dans les religions monothéistes.
On dit que c'est le père de toute façon des religions monothéistes.
Oui, et j'ai toujours eu une opinion perplexe devant ce personnage parce que il est célèbre pour avoir voulu tuer son fils, égorger son fils, parce que il croit en avoir reçu l'ordre. Et donc, sans se poser plus de questions, il s'apprête à égorger son fils. Geste interrompu par le geste par l'archange Gabriel qui lui dit non et qui lui donne un mouton à la place. Voilà,
c'est en ça que vous jouez avec l'histoire.
Voilà. Et c'est une justification que j'ai trouvée, qui a été utilisée plusieurs fois par les terroristes, qui disent, eux, si Abraham, donc l'ami de Dieu, est prêt à sacrifier son fils, moi, au nom de ma croyance, je suis prêt à supprimer les miens et les autres. Et donc, cette possibilité de se permettre les plus grands sacrifices au nom de sa foi m'a paru être quelque chose de discutable pour le moins et qui pouvait prendre place dans un roman.
10 ans après le début de la guerre civile en Syrie, donc vous vous intéressez à ce conflit.
Oui, alors même si le théâtre des opérations, en gros, dans le roman est la Syrie, ce n'est pas à l'issue de la Syrie.
Je vous dis, c'est 10 ans après, quand même, vous essayez au moins de décrypter la complexité de ce qui s'y passe, quand même.
Oui, mais pour moi, ça aurait pu tout aussi bien se passer dans n'importe quel territoire que j'appelle outragé par la cruauté, par la guerre, par l'intolérance. Ça aurait pu ça aurait pu se passer, par exemple, dans l'Allemagne nazie. Le premier génocide du XXe siècle, celui des Hereros. C'est lorsque une partie de l'humanité s'arroge le droit de détruire une autre partie de l'humanité au nom de croyances. Et en fait, dans mon livre, ce livre-là est construit à partir de plusieurs abandons. En fait, il y a à peu près 20 ans, j'ai voulu écrire un livre sur Sumer, que je venais de découvrir. Et donc j'ai beaucoup lu, j'étais absolument époustouflé par la richesse de cette civilisation, dont j'ignorais tout avant. Et puis un jour, je décide d'écrire un roman sur Sumer. Et j'écris chapitre 1, et je vous assure, c'est comme ça que ça s'est passé. J'écris chapitre 1, et brusquement, j'ai su que je ne pouvais pas écrire sur Sumer, parce que la documentation que j'avais lue était tellement extraordinaire qu'elle aurait dû passer de toute manière ce que j'allais écrire. Donc voilà, j'ai abandonné l'idée.
C'est-à-dire que vous pouviez pas faire mieux que ce que vous aviez
vu. Exactement.
D'accord.
C'était merveilleux, cette civilisation que je venais de découvrir. Et puis, j'ai écrit d'autres livres. Et à un moment, j'ai eu une envie très forte d'écrire un livre sur les Indiens d'Amérique. Même processus, je lis énormément de documentation, je prends des notes, etc. Puis à un moment, je me suis dit, mais qui es-tu, toi, pour écrire sur les Indiens d'Amérique? Quelle légitimité tu en as? Tu as pour écrire sur les Indiens d'Amérique. Et puis, petit à petit, et un jour, je me suis dit, il est temps de rassembler ce que tu as découvert sur les Sumériens, sur les Indiens d'Amérique, avec ce qui se passe en Syrie. En particulier, il y a eu un événement qui a été pour moi déclencheur, c'est le silence absolu du monde arabe devant un vrai génocide qui se déroulait devant ses yeux, celui des Yézidis que je venais de découvrir.
Aussi. Alors c'est une religion, hein.
C'est une religion. Ouais. Toutes les religions, pour moi, se valent. Je veux dire.
La religion, on dit religion Yézidi.
Oui, la religion Yézidi. Pour les gens, pour les Yézidis, ça a exactement le même statut que n'importe quelle autre religion pour celui qui y croit.
Alors qui est le dieu des Yézidis?
Alors. Pour eux, il y a un principe créateur qui a transmis la gestion de l'univers à 7 anges, dont l'un, le principal, c'est l'ange Pan. Je trouve ça aussi légitime que n'importe quelle autre religion. Je ne vois pas au nom de quoi je trouve ça moins respectable que d'autres religions. Les musulmans, eux, les considèrent comme des hérétiques, comme des adorateurs du diable, et ce qui n'est, à mon sens, pas vrai. Mais c'était pas ça tellement qui m'avait touché. C'est le fait que un génocide pouvait se passer sous les yeux
du monde entier,
en particulier de la région dans laquelle ils étaient situés, sans qu'il n'y ait eu un seul mot de compassion de la part de ceux qui en étaient témoins. Ça m'avait beaucoup frappé. Je me suis dit. C'est aussi probablement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah ou pendant, par exemple, le génocide des héros. On est spectateur et on se dit cela ne nous concerne pas. Et donc ça a été une des raisons. Et puis une autre raison, c'était une vidéo de Daesh dans laquelle on voit un père lapider sa fille. Parce que, alors qu'elle le suppliait de l'épargner, il lui disait « Non, j'obéis donc à la loi suprême, à celle de Dieu. » Et donc, il lance la première pierre, et puis ensuite...
C'est une scène qu'on retrouve dans votre livre, hein,
oui,
d'ailleurs.
Elle est importante pour moi, parce que je l'ai vue. Je veux dire, enfin, je
la fille,
vu
c'est, vidéo, c'est, mais... c'est Ouda.
Voilà, exactement.
Voilà, alors, il y a des couples importants, on en parlera tout à l'heure, on va essayer de mettre le décor en place. Hein. Yassir et Ouda, donc on verra, parce qu'ils ont une grande importance, parce qu'ils traversent, ils font partie des personnages qui traversent tout le livre.
Oui, j'ai voulu, dans ce livre-là, l'irriguer par des histoires d'amour. Pourquoi? Parce que le livre se passe dans un pays où des choses tellement horribles se passent, qu'un livre qui ne contiendrait que des faits épouvantables serait pas lisible.
Vos histoires d'amour, elles terminent vraiment mal. Hein. Dans le livre, je vais pas dire. Bon, le plaisir d'avoir Anouar Ben Malek avec nous qui vient parler de l'amour au temps des scélérats chez Emmanuel Colas. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Anouar Ben Malek est avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'amour au temps des scélérats. C'est son nouveau roman aux éditions Emmanuel Colas. Alors vous avez ressorti dans votre livre des mots qui étaient dans les tréfonds de l'histoire ou des dictionnaires. Alors le mot scélérat, quel sens est-ce que vous donnez au mot scélérat?
Ici, dans le livre, il y a toutes sortes de scélérats. Le scélérat est celui qui commet volontairement une cruauté envers d'autres personnes pour des tas de raisons. La principale étant d'abord qu'il considère la personne envers laquelle il existe et il exerce sa scélératesse comme étant humainement moins valable, donc ayant moins le droit de vivre que d'autres. Et puis il y a de toutes sortes de scélératesses. La scélératesse la plus répandue est celle de la lâcheté. le silence.
Vous dites scélératesse, en fait.
Scélératesse, oui.
C'est le nom que vous avez créé à partir de la scélératesse.
Scélératesse, oui. Là, c'est un... J'allais dire... Il y a des mots anciens qui me paraissent avoir une force parce qu'ils ne sont pas très utilisés. Certains mots, en fait, sont tellement utilisés qu'ils perdent leur tranchant. Et le mot scélérat, c'est vraiment l'insulte suprême. Quand quelqu'un est un scélérat, quelque part, cela est un jugement porté sur son âme propre. Les gens de Daesh qui peuvent tuer des enfants, etc., sont vraiment des scélérats. Les troupes gouvernementales syriennes qui peuvent torturer et tuer dans des conditions épouvantables sont aussi des scélérats. Mais le scélérat aussi, il y a le scélérat de bas, celui qui voit un massacre et peut le soutenir parce qu'il soutient, ce genre de scélérat soutient toujours les pouvoirs en place. C'est grâce à ces scélératesses de bas niveau que la scélératesse de haut niveau existe.
Alors il y a d'autres mots qui ont perdu, en tout cas, qu'on a perdu, dont on a perdu l'usage. Le mot renégat. Il y en a un autre. Il y a gredin.
Gredin, il y a...
Donc là, je me suis dit, il a lu le dictionnaire de Macron. C'était tous ces mots un peu surannés.
Oui, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que une partie des échanges entre les personnages se passe en arabe. Et l'arabe a beaucoup de mots de ce genre-là. L'arabe est une langue extraordinairement belle et qui a une particularité, c'est que quelqu'un du 5e siècle, théoriquement, ouais, peut comprendre l'arabe qui s'y parlait. Donc, à la langue de base, se sont ajoutés beaucoup de mots, etc. Mais elle reste la même. Tandis que quelqu'un qui lirait un ouvrage en vieux français du 5e siècle n'y comprendrait absolument rien. Donc, j'ai essayé de transmettre un peu ces mots très vieux en français. Par exemple, la vergogne. La vergogne, je trouve que c'est un mot qui est fort. C'est pas la honte. La honte est tellement utilisée qu'on...
On dit souvent sans vergogne. On parle de quelqu'un qui est sans vergogne. Donc oui, quelqu'un qui n'a pas honte.
Qui n'a pas honte, mais dans un sens qui n'est pas celui de la honte habituelle. C'est une honte presque métaphysique. Vergogne, on disait avant. Et je trouve que ces mots-là sont des. On devrait avoir honte de ce qui se passe en Syrie. On devrait avoir honte de ce monde arabo-berbère, ou enfin pas seulement arabe, je dis arabo-berbère parce que je dis seulement arabe, on va me tomber dessus. Donc arabo-berbère, kurdo, enfin bref, donc une langue, liste à rallonge. Le monde arabe est dans une situation...
Kurdo-persan, allez, on y va.
Oui, mais on se limite en seulement au monde arabe. Il y a tellement de petites communautés que parfois on est étonné. Par exemple...
Vous allez jusqu'à la Turquie dans votre livre. Alors,
oui, parce que la Turquie est un acteur aussi important maintenant du conflit en Syrie. Mais par exemple, les Samaritains. Moi, j'ai toujours cru que les Samaritains étaient simplement un terme qui se référait à une ancienne population, le bon Samaritain de la Bible, etc. Mais les Samaritains sont un groupe qui existe. Ouais. Ils sont au nombre d'à peu près 800, partagés entre les Palestiniens et les Israéliens. Les Palestiniens leur donnent la nationalité palestinienne. Et les Israéliens leur donnent la nationalité israélienne. Et donc, ces Samaritains, quand on ouvre les yeux, le monde arabe est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins uniforme qu'on ne le croit.
Alors, vous vous êtes mis dans votre roman dans la peau de tous les acteurs de terrain de cette guerre, hein, y compris les terroristes.
Oui, parce que le problème avec les terroristes, c'est que il est facile de les écarter de la main en disant « ce ne sont pas des êtres comme nous ». En réalité, ce sont des êtres comme...
C'est pour ça qu'ils sont, je dis pas qu'ils sont sympathiques, mais quand même, il y a beaucoup d'ironie quand vous en parlez.
Oui, il y a un personnage qui est important, qui va déclencher plusieurs événements qui vont lier les différentes histoires qui composent le livre. C'est par exemple celui qui va devenir un terroriste irakien. Son cheminement pour devenir terroriste est quelque chose de très banal, par exemple, en Irak. L'épouvantable violence des troupes américaines quand elles rentrent en Irak est stupéfiante. Et elle est absolument impunie. Il y a une histoire, par exemple, que je raconte de cette famille qui s'est écrasée par des chars Abrams. Et donc, il s'avère ensuite que ce n'est qu'un simple vendeur de chocolat. Un des soldats, un des GI, prend une plaquette de chocolat, l'essuie sur son pantalon et la mange. Et ça, c'est une histoire vraie, à tel point que j'ai changé le nom de celui qui raconte. J'ai pris le vrai nom et j'ai changé en O, la fin de son nom. Pourquoi ? Pour avoir la possibilité de dire, si vous croyez que j'exagère, lisez les mémoires de ce GI, mémoires, comment dire, préfacées par un général de l'armée américaine.
Ah oui, on parle d'un GI américain qui explique comment il s'est retrouvé dans ce conflit, d'ailleurs.
Oui, et ben, c'est celui qui va
c'est
être...
le rouquin.
Qui va être chargé de torturer, en fait, le
Fawzi, Ibrahim Fawzi.
C'est ça, celui qui va devenir un terroriste important, etc. Donc, comprendre ça, ce n'est pas excuser, mais c'est montrer que l'être humain est une bête curieuse, en fait. Elle est capable du meilleur, mais aussi du pire. Ce personnage-là aurait pu être un simple père de famille, amoureux fou de sa femme et de son fils, et il va se retrouver...
Leïla et son fils Walid. Et là, on parlait, et vous parliez tout à l'heure du sacrifice d'Abraham, qui traverse également votre livre, puisque beaucoup des personnages qui ont des enfants sont amenés à un moment donné ou à choisir... ou à sacrifier un de leurs fils.
Exactement.
Ou de leur enfant.
Et ce choix, qui nous semble un choix impossible, est en fait une réalité dans beaucoup de territoires en guerre, et en particulier dans cette guerre, qui ne semble pas avoir de fin, en Syrie. On impose même le choix de Sophie à un personnage, la Yézidi, qui est aussi un personnage extrêmement important dans le roman.
Donc c'est la mère, la mère de deux enfants qui lui sont enlevés et entraînés pour devenir des enfants kamikazes.
Exactement, comme c'était quelque chose de très fréquent et qui l'ignominie n'ayant pas de limite, des gens de Daesh vont aussi les vendre parce que il y a tout un trafic. On propose à des familles de leur rendre leurs enfants s'ils payent tant d'argent, etc. Donc, toutes sortes d'ignominies ont eu leur place en Syrie et ont encore leur place en Syrie.
Elle s'appelle Zayeli, votre... Votre héroïne, c'est magnifique.
Je suis tombé amoureux de ce nom-là, Zayeli, qui est...
La maman de Reben et Aran.
Exactement. Voilà. Ouais. Ce sont des prénoms yézidi, qui ressemblent souvent à des prénoms kurdes, parce qu'il y a... les yézidis sont proches des kurdes, sauf que eux n'ont pas la religion majoritaire des kurdes, qui est l'islam. Eux ont conservé cette vieille religion dans un environnement extrêmement hostile. Et eux, les yézidis, ont été très souvent la proie de massacres de la part de leurs voisins et concitoyens musulmans, je dirais.
D'ailleurs, au début, elle a une aventure avec un Français.
Oui,
qui s'appelle Pierre. Et là, vous dites que c'est un clin d'œil inspiré de 100 ans de solitude. D'ailleurs, le titre de votre livre est d'ailleurs inspiré d'un...
Le titre est une provocation.
Mais c'est pas inspiré d'un roman de Marquez ?
C'est le titre de Gabriel Garcia Marquez. Je veux dire, le titre est tellement connu que j'étais sûr que les gens diraient mais il a le
plagiat
inspiré d'un titre de Garcia Marquez, et en fait c'est fait exprès. Alors le pari était difficile, parce que si le livre était considéré comme mauvais, ça m'aurait valu des volets de bois vert, je veux dire. Bon, j'ai eu la chance que le livre soit plutôt bien accueilli, mais en même temps je me considère comme faisant partie de l'humanité tout entière, et un écrivain comme Garcia Marquez ou un autre auquel je rends hommage, Bulgakov, donc le russe Bulgakov, pour moi c'est de la littérature. Ce sont mes compatriotes dans le pays appelé la littérature. Alors de grands compatriotes.
C'est pour ça qu'il y a un chat donc sur la couverture.
Ça c'est la référence à Bulgakov.
Oui, c'est pour ça que je me posais la question. Ouais.
même si les chats dans Bulgakov, le chat dans Bulgakov est un personnage cruel, abominable, tandis que les chats chez moi sont des chats plutôt du bon côté. Voilà, c'est.
C'est-à-dire que c'est pas des c'est pas des c'est des chats qu'on peut prendre dans
le chat,
dans
le
les
chat,
bras, ouais.
Le chat occupe une place très particulière sur Internet. C'est l'animal le plus fréquent sur Internet, le plus fréquent également chez tout le monde, même chez les terroristes. Parce que les terroristes, vous avez beaucoup de photos sur Facebook, sur Twitter, de terroristes avec des chats. Pourquoi? Parce que...
Alors, on dit que le prophète aimait les chats.
Oui, parce que un chat aurait sauvé le prophète d'une morsure d'un serpent. Et donc, pour le récompenser, le prophète lui aurait donné cette vie. Voilà, donc, mais cette présence du chat, d'un animal que moi, j'aime beaucoup, parce que c'est l'animal qui est libre, qui n'est avec vous que parce qu'il est avec vous, parce qu'il a décidé.
Oui, enfin, par intérêt surtout.
Oui,
Le chat est avec vous par intérêt d'abord, oui, le sien, manger.
Exactement. Et je trouve que c'est une position tout à fait défendable, je veux dire...
Bulgakov, qui est l'une de vos inspirations et dont vous auriez rêvé d'écrire Le Maître et Marguerite.
Ah, c'est un très très beau livre. J'aurais aimé, je dirais. Oui.
Mais vous avez le droit d'être jaloux. Vous pouvez être jaloux de...
Ah ben, évidemment. Jaloux de Bulgakov, jaloux de García Márquez et admiratif, je veux dire, sur la
c'est une question, ça,
puissance
est-ce que, de la littérature. Est-ce que les écrivains peuvent être jaloux de la puissance d'un livre qu'ils auraient aimé écrire ou porter?
Oui, parce qu'il faut avoir une certaine sorte de jalousie. Pourquoi? Pour se dire, je vais essayer de faire, pas mieux, mais faire le mieux possible de ce que je puisse faire. C'est ce que disait un boxeur américain qui était champion du monde. Il a dit, quel est le secret de votre réussite? Il a dit, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Et ça, je crois que c'est une leçon. Il y a tellement de mauvais livres qui sortent où l'on voit que l'écrivain ne s'est pas donné la peine de mettre sa, j'allais dire, presque sa vie en danger pour écrire le livre.
Anouar Ben Malek est avec nous et ce matin, nous continuons de feuilleter l'amour au temps des scélérats. Maintenant, on sait ce que ça veut dire scélérat aux éditions Emmanuel Colas. Restez avec nous jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Profitons de la présence d'Anouar Ben Malek qui est avec nous. L'amour au temps des scélérats, c'est votre nouveau roman. Anouar Ben Malek. Alors, d'où vient votre obsession pour Asman?
En fait, Asman, je pense qu'elle a sauvé mon livre. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'avais très envie d'écrire ce livre-là, mais je ne savais pas où j'allais.
Ah, c'est le chaînon manquant?
Donc j'écrivais en me disant, mais où vas-tu? Et je tombe, tout à fait par hasard, mais follement amoureux d'Asman.
Et de son vrai nom, elle s'appelait Amal El Atrach.
Oui, c'est la sœur de...
Il faut expliquer.
Atrach,
oui.
C'est vraiment un personnage romanesque au possible, qui a une superbe voix.
La Marilyn du Moyen-Orient.
Exactement.
Alors, qui meurt dans des conditions quand même très suspectes, dans un accident de voiture.
C'est romanesque au possible. Elle était une femme très belle, courtisée par je ne sais combien de personnes. On dit même le roi à l'époque, etc. Elle était libre, une liberté qui choquait tout le monde, etc. Et elle meurt, évidemment, dans des conditions étranges. Mmh. Elle a travaillé, alors on dit, toutes les hypothèses
sont
ouvertes. Elle aurait été assassinée par sur l'ordre de la femme du roi, parce que le roi, elle était jalouse de l'amour qu'aurait porté le roi à Asman. Elle aurait été assassinée par les services allemands, etc., parce qu'elle a travaillé pour les services, à un certain moment, les services français. Enfin, bref, c'est une vie extraordinaire. Et quand je découvre cette voie-là, c'est là que je me dis, et si Houda, l'apprentie chanteuse, devenait en quelque sorte Asman.
La femme de Yassir qui échappe à la lapidation.
Exact.
Mais alors, elle adopte un nom de scène quand même.
Oui, elle adopte un nom de scène sous l'influence de Tammuz. Parce que Tammuz, qui est donc un personnage ironique, sarcastique, qui en a vu des cruautés, etc., a eu le malheur, il y a très longtemps de ça, il y a plus de deux millénaires, ont de tomber amoureux d'une femme, une femme humaine. Et là, lui qui est éternel, et pour lui l'éternité est une punition. Il va voir cette femme disparaître parce que elle est soumise à la finitude comme tout être humain. Et donc ensuite, il va donc errer le long des âges et il a le malheur de commencer à être amoureux de cette Ouda, ce qui va être extrêmement important dans le livre, parce que on ne sait plus exactement qui est amoureux. Est-ce que c'est vraiment l'esprit surnaturel qui est au-dessus de toutes ces contingences humaines, ou un esprit surnaturel qui découvre que la finitude a aussi sa beauté. Que l'on vit une vie et puis que cette vie se termine et puis voilà.
Voilà, et il lui transmet un don. Alors, pour le plaisir, parce que ça fait pas si souvent qu'on l'écoute sur Beurre FM, on va écouter un extrait d'Asman.
Ah, ça c'est un beau cadeau.
Par le temps, c'était un peu la rivale de Oum Kalthoum, hein.
Ah oui. Ouais. En même temps, c'est triste de le dire, mais quand on observe la situation du monde arabe actuellement, ce monde devenu bigot, ce monde dans les ambitions de liberté se sent rétréci à un point incroyable, cette dame, cette grande dame, est une véritable leçon. Qui oserait maintenant sur les scènes arabes chanter comme chantait Oum Kalthoum l'amour dans toutes ses facettes, l'amour spirituel, l'amour physique, etc. Et donc c'est pour ça que Asmahan, pour moi, donc quand je dis elle a sauvé mon livre, elle l'a véritablement sauvé. Voilà.
Bien. Vous êtes né à Casablanca, à Noor Ben Malek, de père algérien et de mère marocaine. La tension monte entre les deux pays. À quoi assiste-t-on ? À un jeu dangereux ?
C'est quelque chose de très grave. Les deux grands peuples, algériens et marocains, sont vraiment extrêmement proches. Sont des voisins naturels. Et des liens historiques, de langue, de religion, de fraternité ont existé depuis toujours. Pendant la guerre de libération, le Maroc a été un pays de repli. Le roi Mohamed V a été a montré son appui à la lutte de libération du peuple algérien. Et donc, être à une époque où certains osent utiliser le mot de guerre entre ces deux pays me semble un épouvantable scandale. Ce serait quelque chose de terrible. Donc, il faut, quels que soient les incidents parfois graves qui peuvent se passer, que la raison gagne. Il faut que les deux peuples s'opposent à toute instrumentalisation politique.
Mais sous quelle forme, Anouar Ben Malek ?
que les deux peuples, je ne sais pas. Je veux dire,
c'est la question aujourd'hui, c'est de savoir comment finalement.
Il faut que les gens résistent à l'appel des va-t'en guerre. Je ne peux pas imaginer un seul instant que des soldats algériens se battent contre des soldats marocains. C'est quelque chose à éviter à tout prix. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas et ça ne doit pas se passer. Il y a trop de choses qui lient les deux peuples. Il faut que le Maghreb redevienne ce qu'il aurait dû être, une région où la circulation soit libre. Ce sont des vœux, c'est vrai. Mais chacun doit faire en sorte de brider les instincts meurtriers. N'oublions pas que les guerres souvent éclatent à propos de choses très 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 qui, lorsqu'on considère le résultat final, sont dérisoires. La Première Guerre mondiale a éclaté à cause d'un attentat dans un petit pays. Et le résultat a été une guerre abominable qui a ensuite créé les conditions pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, il ne faut pas, je ne trouve pas d'autre terme. Ce serait contre l'intérêt profond des deux peuples. Il faut que la raison gagne. Il faut que les bellicistes des deux côtés soient, remis à leur place. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas de place.
Mais par qui?
Les partis doivent aussi faire leur travail, calmer la situation. Chacun des deux pouvoirs a intérêt à hystériser la situation. Pourquoi? Parce que dans chacun des deux pays, la situation des gens ordinaires est une situation catastrophique. Que ce soit en Algérie ou que ce soit au Maroc. Donc, le désir des pouvoirs d'utiliser les difficultés extérieures est un désir qui est très fréquent, je veux dire, dans tous les pouvoirs, dans tous les pays, sur tous les continents. Donc, il ne doit pas y avoir d'événements de ce type-là entre l'Algérie et le Maroc.
Dans votre légende personnelle, Anouar Ben Malek, il est dit que c'est l'amour et la rencontre avec une femme mythomane qui est à l'origine de votre vocation. Vous avez 22 ans, c'est une légende ou c'est de la vérité?
Ah non, mais ça semble légendaire, mais je vous assure que c'est la vérité, parce que à l'époque, moi j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu, mais je n'ai jamais pensé devenir écrivain. Et c'est donc ce hasard de la vie qui m'a fait rencontrer donc une jeune femme quand j'étais en fait à Kiev en Ukraine.
Parce que vous avez fait vos études là-bas.
Oui, je faisais une thèse de mathématiques là-bas.
Mais c'était courant à l'époque, hein.
Oui, c'était assez courant.
Maintenant, c'est moins courant. Oui.
Pour les malchanceux, parce que les malchanceux allaient en URSS,
ouais.
Et les autres allaient en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et moi, quand j'étais envoyé en URSS, je savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Et donc, je me rappelle très bien, je passe mes trois premiers mois à me dire, je vais retourner. Et puis, donc je vais à Moscou pour demander à retourner et je rencontre un autre mythomane d'ailleurs. Je me rappelle, c'était un Algérien qui me dit, mais non, tu vas commettre une grosse erreur. Regarde-moi, j'ai terminé ma thèse, je suis docteur, etc., etc. Et il me dit, attends-moi une année. Et ensuite, donc, il me convainc. Et j'apprends ensuite que ce type-là, en fait, avait abandonné sa thèse, etc. Il s'était marié avec une russe, mais il avait tout abandonné et il errait son travail, etc. en URSS. Et donc, il m'a sauvé la mise. Et donc, cette femme, en fait, moi, j'étais à l'époque que mathématicien. Et je dis toujours, que peut faire un mathématicien pour convaincre une jeune femme de lui prêter plus attention? Alors, j'ai fait ce que fait tout le monde en pareil cas, écrire de la poésie, de la mauvaise poésie. Puis ensuite, je suis passé à des nouvelles. Et puis ensuite...
T'as commencé à écrire.
J'ai commencé à écrire réellement.
Mais qu'est-ce qu'elle vous avait dit, en fait?
Non, elle m'avait, comment dire, écrasé dans mon insignifiance en me disant qu'elle faisait de la photo artistique, qu'elle parlait le sanskrit, qu'elle peignait des icônes. Et moi, je ne faisais que des maths. Donc, je me suis mis à écrire, etc., etc. Ensuite, j'ai découvert que cette jeune femme était également une mythomane, qu'elle n'avait jamais... plein d'icônes, qu'elle ne parlait pas de sanskrit, etc., etc. Mais je lui reste infiniment reconnaissant.
Mais vous rendez compte?
Elle m'a permis de sauter le pas.
Est-ce que vous lui envoyez des droits?
Je devrais, mais j'ai perdu le contact avec elle.
Vous avez créé un premier recueil.
J'espère qu'elle m'écoute.
Ah oui, c'est sûr. Mais elle était russe, non?
Non, elle était française.
Elle était française.
À Kiev. embarquer. Voilà.
Ah, dis donc.
Parce qu'il y avait souvent des Français qui venaient pour des cours de russe, etc. etc.
D'accord. Donc voilà, c'est... Cœur d'artichaut, Anwar Ben Malek.
Les détours que prend l'histoire sont parfois assez amusants, en fait.
Bien, l'amour au temps des scélérats vient de sortir. Anwar Ben Malek, vous étiez notre invité aujourd'hui. Quel plaisir! Et vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo. Vous savez, maintenant, on est filmé, Anwar. Quand je pense à toutes ces émissions qu'on a faites et qu'on n'a pas filmées, mes archives. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie, c'était vraiment un plaisir.
Et passez un bon dimanche sur beurrefm.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.